Je suis consterné par les réactions de mon corps. J'ai toujours aimé naviguer, sentir les variations du vent sur ma peau indiquer le moment de virer, choquer ou prendre un rive. C'est la première fois que j'ai le mal de mer. Encore un effet secondaire qu'on ne m'avait pas signalé. Depuis que nous voguons au large des côtes anglaises, je n'apaise la nausée qu'en gardant les yeux fermés la moitié du temps. Un comble. En plus, je m'efforce de le cacher pour ne pas faire honte à Fred, ni décevoir les Daphniques. Elles se faisaient une telle joie de fêter mon retour à la lumière, sur leur nouveau ketch. Alors je m'extasie poliment devant l'acajou, le teck, la voilure gris Trianon, les falaises aux nuances de vert infini, et les couchers de soleil somptueux, et Burke au fond de la cabine. Daphné est bien plus belle que je ne l'avais imaginée, et Nicole beaucoup plus moche. Une longue sirène aux yeux de glace et un ton débonnaire. Encore un couple assorti par les seuls sentiments, bravant la différence d'âge, de physique, de milieu, de culture. Fred adore les fréquenter parce qu'elles nous ressemblent et gomment du coup notre singularité. Je le comprends à présent. Je me suis toujours demandé quel intérêt il y avait, hormis la navigation de plaisance, à subir la prétention friquée de l'une et la connerie béate de l'autre. Là, ça saute aux yeux. Je suis injuste. En m'embarquant par surprise sur le Daphnique 3 à Honfleur, après m'avoir fait croire sur l'autoroute qu'on avançait juste notre réservation d'hôtel, Fred pensait aussi à moi. Face à toutes les tentations visuelles qui m'agressent désormais, les mecs en premier lieu, elle ne voulait pas seulement me réinsérer dans ce qui, à ses yeux, représente la norme. Il lui paraissait urgent de me couper de la terre ferme, de l'horizon habituel où tout pour moi devenait perturbation, remise en cause, nouveauté, c'est-à-dire, pour elle, concurrence. Il y avait bien sûr cette façon dont je dévisageais les hommes dans la rue, au restaurant, partout, ce besoin de me voir dans leurs regards, de reprendre le pouvoir sur mon image, de les fixer jusqu'à ce qu'ils baissent les yeux. C'était plus fort que moi. J'en étais aussi gêné que Fred. Délicieusement troublé aussi. Les peurs, l'inhibition, la soumission forcée aux observateurs invisibles avaient laissé la place à un jeu de séduction dont le seul objectif était d'allumer pour éteindre. Mais ce n'était pas le pire. J'avais détesté quasiment tout ce que mes yeux m'avaient révélé. Détester cette méfiance amère dans l'expression de Fred, là où sa peau, ses gestes et sa voix ne suggéraient que lucidité bienveillante, protection, connivence. Détester les apparences, le décor, les choix de ma vie. Détester mes vêtements voyants, les tons criards de mon appartement et surtout la froideur tourmentée de mes tableaux. Toutes ces harmonies illusoires que j'avais composées au toucher, à la chaleur des couleurs. Chaque teinte dégage une intensité thermique particulière, une longueur d'onde que j'avais cru capter, dominer, orchestrer. Résultat, j'avais vécu plus de 10 ans dans une erreur de jugement donnant une fausse image de moi. Je pensais transmettre la gaieté combative qui éclairait ma nuit. Je n'avais fait que diffuser de la provocation stérile et des visions du monde désaccordées, heurtées, flippantes. La découverte de mes œuvres m'a cassé, déraciné. Quand Fred m'a trouvé en train de détruire mes toiles parmi les sacs poubelles où j'avais fourré ma garde-robe flashy, une croisière surprise lui a paru la meilleure réponse à ce déracinement dont je lui rebattais les oreilles. Comme si larguer les amarres était une solution. J'étais si bien ancré dans ma peinture toutes ces années. J'aimais les odeurs de térébenthine, la pâte sous mes doigts, le grain de la toile, le gras des pastels, les variations de température sur ma palette. J'aimais les mots des gens dans les vernissages que m'organisait Fred. Leurs émotions brouillonnes, contradictoires, sincères ou convenues. J'aimais que ma peinture leur parle. Mais ils me disaient ce que je voulais entendre. Ils répétaient à leur manière ce qui était écrit dans le catalogue. Votre énergie positive nous fait du bien, tu parles. ces aquariums plombés, ces fantômes intérieurs qui hurlaient derrière des fenêtres sans poignées. Je revendiquais l'influence de Magritte et je leur servais le cri d'Edouard Munch. Je déteste la colère en souffrance qui est sortie de moi toutes ces années, à mon insu. J'ai annulé l'expo que voulait monter Fred en octobre avec le soutien de RTL, ravi de sponsoriser la voix qui retrouve la vue. Renie ta période noire, Alice, d'accord, ressasse Fred, mais peins ta nouvelle vision, tu vas faire un malheur.
Le mien, oui. Comment avouer à la personne qui tente par amour de me faire exister comme artiste que l'art n'était pour moi qu'un langage de substitution? Je n'ai plus besoin de réinventer le monde, maintenant que je peux l'observer directement. Je veux vivre, c'est tout. Arrêter de compenser, de recréer, de me faire avoir par les apparences, les pires, celles que j'ai projetées. Reflet inconscient d'un désespoir muet que je croyais avoir vaincu dès les premiers mois de ma cécité et qui reprend le pouvoir sous mes yeux maintenant que j'ai les moyens de souffrir. Mais les couleurs ne sont pas seules en cause. Les sons aussi m'ont trahi. À la chorale amateur du lycée Henri IV, où je chante deux fois par semaine, j'ai fait mes premières fausses notes. Au milieu des voix familières, j'étais trop dispersée, trop distraite par tous ces visages si mal accordés à leur tessiture. Comme les gens ont changé en 12 ans. Et pas seulement à cause des modes, des liftings, du botox, de l'obsession anti-âge qui, toute génération confondue, dissimule le reflet des âmes sous une fausse jeunesse inexpressive. Ils ressemblent aux autres parce qu'ils ne se ressemblent plus. Uniformisés, formatés, aseptisés par le politiquement correct, la sinistrose chronique, la dictature du bio, la mauvaise conscience et le nombrilisme actif. Ce développement personnel dont les médias leur bourrent le crâne et qui n'est qu'un élevage en batterie. Ce mélange de repli égocentrique et d'infantilisme à usage citoyen dont je ne mesurais les effets qu'à travers leurs paroles. Quant à la gestuelle des textos, elle crée dans les rues, les transports, les bureaux, une chorégraphie digitale de clones que je suis la seule à trouver grotesque. La ville est peuplée d'autistes qui parlent tout seuls sans se regarder. Narcisse Twitter, épuisés par le stress qui les propulse. Ils sont devenus hybrides, comme leur voiture. Les inconvénients cumulés de l'émission polluante et des batteries qui se déchargent. Mais ce désenchantement vient de moi aussi, bien sûr. Le monde était jeune quand il s'est éteint. Il se rallume et nous avons vieilli. Comment changer les couleurs du temps, maintenant que je n'en suis plus exclu? En me répétant toutes ces années, quel courage vous avez, les gens m'en ont tellement donné. Qui va me plaindre, désormais, m'admirer pour la façon dont je prends les choses? Je retrouve la vue et je déprime. L'enthousiasme autour de moi, l'émerveillement que suscite ma guérison, me laisse un sentiment de solitude honteuse que jamais le handicap n'a provoqué. Le devoir de bonheur auquel je m'astreignais, par fierté et instinct de survie, est remplacé désormais par un simple code de décence. Je n'ai plus le droit d'aller mal. Et de fait, je vais très bien. C'est du moins ce que disent les examens. L'ophtalmo de Honfleur, chez qui je me suis fait contrôler avant d'embarquer, n'en revient pas de la vitesse à laquelle les cellules de l'œil colonisent la cornée artificielle. Avec des semaines d'avance sur les prévisions du chirurgien, ma vision est redevenue parfaitement normale. Du coup, je peux réduire les corticoïdes et les anti-rejets, sur la notice desquels figure la dépression au titre des effets secondaires éventuels, ce qui rassure Fred. Elle préfère se dire que mes états d'âme ne viennent pas de moi. L'aveuglement, désormais, est de son côté. Il faut dire que je fais tout mon possible pour lui dissimuler ma perte de libido et mes pudeurs nouvelles. Mais j'ai du mal à faire semblant. Même dans le noir, je n'arrive plus à retrouver l'excitation que me donnaient ses caresses. Il y a cette surimpression qui désormais dénature sa présence, fausse mes perceptions, désagrège le fantasme. Regard inquisiteur et sourire factice, Fred ne ressemble en rien à ce que je déduisais de mon plaisir. Fred m'échappe. Alors je triche. J'incrimine le mal de mer et la promiscuité. Les décibels inharmonieux qui, en provenance de la cabine voisine, heurtent mon oreille de puriste lorsque Daphné et Nicole branchent le pilote automatique. Restent les mots d'amour de mon ami, sa belle voix de contralto, le rempart de son humour, le refuge de son parfum. La tendresse intacte, la bulle d'abandon qui précède le sommeil, et d'autres désirs nouveaux qui prennent le contrôle de mes nuits, me laissant au réveil un sentiment de frustration de moins en moins coupable. Bien sûr, je t'aime toujours, mais autrement, avec un « bien sûr » et un « toujours » qui signifie « encore ». La différence d'âge et l'apparence physique ne sont pas seules en cause, Fred. Je n'ai plus besoin d'être protégé, mais de prendre des risques, de mettre en péril tout ce qui me sécurisait. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire de ma vie. J'ai plein de projets, bien sûr, toujours. Dès la rentrée, je proposerai à RTL, pour la prochaine grille d'été, un concept d'émission intitulé « Un œil neuf ». Je vais reprendre le rafting, le ski de compétition, et m'initier à tous les sports qui m'étaient impossibles, du tennis au parapente en passant par le tir à l'arc, et même passer mon permis de conduire. Sans parler des merveilleuses démarches administratives qui m'attendent pour faire annuler ma carte d'invalidité. Mais là, dans l'immédiat, la perspective de ces vacances avec Fred me panique. Le retour imminent sur la terre ferme, sans l'excuse du mal de mer ni du manque d'intimité. Et, surtout, la plage de Trouville, sans Jules. Ce bonheur fou qu'il attendait toute l'année. Nos baignades interminables, sa chasse au goéland, ses dragues obsessionnelles en dehors des heures de harnais. Le don juan de la plage, comme le baptisaient les sauveteurs du poste de surveillance. Pourquoi ai-je refusé qu'on annule la résa? Mon chien me manque, terriblement. Lui seul savait anticiper mes détresses, désamorcer mes coups de blues, amplifier mes joies, les faire siennes. Le voilier est magnifique, le paysage m'éblouit dès que la nausée s'apaise. Les lumières de la Manche sont une splendeur, mais je m'en fous. Tout ce que j'ai envie de voir, c'est Jules. Et pourtant, j'ai coupé les ponts. J'ai fait exprès d'abandonner dans le bureau de Jacques Haussmann mon portable, avec tous mes contacts, pour être sûr de ne pouvoir recevoir ni demander de nouvelles. Il faut que je laisse Jules s'investir pleinement dans une autre vie. Créer des liens exclusifs avec son nouveau maître, reprendre son rôle en retrouvant son équilibre sans être, comme moi, sous l'emprise du manque. Oubliez-le, Alice, dans son intérêt. Je n'y arrive pas.